Balade en Île-de-France. Émission proposée par Radio Ivry avec theviste.com.
Nous sommes devant la pyramide du Louvre. Il faut certainement plusieurs jours pour découvrir le Louvre. Mais saviez-vous qu'il a fallu plus de 800 ans pour qu'il se construise ? La pyramide est la nouvelle entrée du Grand Louvre.
Hey, je peux vous en causer, moi, de la pyramide. Je suis laveur de vitres. Enfin, ici, c'est plutôt voltigeur. Ah, ces vitres. Vous vous rendez compte ? Ils ont inventé un verre exprès pour qu'il soit plus transparent que transparent. Et vous savez combien il y a de pièces de verre ? 793 exactement. Les gus qui les ont découpés, ils ont mis 3 mois vitre par vitre. En plus, c'est le double de vitre qu'ils ont livré. Parce que pour la maintenance, il y a une pyramide de rechange qui est stockée dans les entrepôts. Vous saviez ça ? L'architecte, il disait qu'il voulait la transparence pour que l'espace reçoive la lumière du jour. Et que de l'intérieur, on voit le palais et tous ses pavillons. Eh ben, c'est aussi grâce à moi que ça marche. Propre, non ?
Mais le Grand Louvre, ce n'est pas seulement la pyramide.
Non, non, bien sûr. Le projet du Grand Louvre a consisté à rendre la totalité du palais au musée. L'aile Richelieu, que vous voyez sur votre gauche, était occupée par le ministère des Finances. Il a fallu revoir la présentation des collections, repenser la place de chaque œuvre, et puis créer un parking, une galerie commerciale. Et aussi le jardin du Carrousel qui rejoint celui des Tuileries après le petit Arc de Triomphe.
Mais qui est à l'origine de ce projet ?
Bien, depuis les années 70, les collections du Louvre sont trop à l'étroit. C'est le président de la République, François Mitterrand, qui soutient ce projet. Et puis l'architecte Pei planche sur le sujet. L'Américain revoit totalement l'organisation du musée et propose la construction de la pyramide dans la cour Napoléon.
Une pyramide construite par un Américain, ça a dû faire du bruit.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le débat était passionné, mais c'est normal quand il s'agit de l'un des monuments les plus importants de France.
Oui, mais alors comment s'est réglée la controverse ?
Eh bien, entre autres, le maire de Paris, Jacques Chirac, a demandé une simulation de la Grande Pyramide. On a tendu des câbles avec une immense grue, et du 1er au 6 mai 1985, 50 000 curieux ont défilé devant une fausse pyramide.
Et ?
Le projet a été accepté.
Voilà comment l'architecte défendait sa pyramide dans la presse.
Je pense qu'il y a certaines formes idéales qui sont placées hors du temps. Et la pyramide est une de ces formes. Peu importe qu'elle soit placée dans le désert ou au centre d'une ville, nous utilisons la technologie du 21e siècle pour construire une forme suggestive de l'Antiquité. Mais néanmoins, à mon avis, absolument hors du temps.
La pyramide ouvre en 1989.
C'est moderne, mais moi je trouve que c'est très très agréable, c'est clair. Quand on peut se délasser et puis prendre un petit verre, on se sent tout regaillardi après.
Après plus de 15 ans de travaux, le Grand Louvre a doublé sa surface avec 60 000 mètres carrés de salles d'exposition et des œuvres qui présentent 11 millénaires de civilisation et de culture. Aujourd'hui, comme dit son architecte,
le Louvre épouse à nouveau la modernité de son époque. C'est dans sa tradition. L'architecture doit pour moi arriver à réaliser une alliance courageuse du futur et du passé.
La renommée internationale du musée fait parfois oublier qu'à l'origine, c'était un palais. Les rois, les empereurs, les présidents ont tous rêvé de le transformer. Il a connu les bals, les crimes, les mariages, les naissances qui ont fait l'histoire de la France. Nous sommes à la fin du XIIe siècle. Paris s'agrandit vers la rive droite de la Seine. Philippe Auguste commande un rempart pour entourer ce nouveau quartier et un grand donjon qui protège la forteresse. Le Louvre est né. Au départ, c'est une prison et les rois habitent l'île de la Cité. Au XIVe siècle, Charles V transforme la forteresse en résidence. Et tout change en 1528 quand François Ier décide de baser le pouvoir royal à Paris.
Notre intention est de faire la plupart de notre demeure en notre bonne cité de Paris. Sachant que notre château du Louvre est un lieu plus commode pour nous loger, nous avons décidé de le faire réparer et remettre en ordre le dit château.
Et puis, il le décore son château. C'est à ce moment-là qu'il achète un portrait qui deviendra l'un des plus célèbres du monde. Et oui, la Joconde, elle a été volée puis retrouvée. Elle a voyagé aux États-Unis et au Japon, mais reste indissociable du Louvre. Elle est la star de l'aile de nom sur votre droite.
Mais revenons au palais et aux épisodes sanglants qui s'y déroulent le 24 août 1572. C'est la Saint-Barthélemy. les catholiques massacrent les protestants. Le futur Henri IV se cache ici, dans la chambre du roi. Ses compagnons sont poignardés aux portes du Louvre. Quand il revient à Paris pour régner, Henri IV n'est pourtant pas rancunier. Il a même un grand projet qu'on appelle le Grand Dessein. Réunir le palais du Louvre avec son voisin d'en face, celui des Tuileries, construit par Catherine de Médicis. Mais le chantier est énorme et Henri IV meurt prématurément, assassiné par Ravaillac. Louis XIII lui succède. Il préfère promener son chameau dans la cour ou contempler sa volière plutôt que de penser architecture. Il faut dire que le nouveau roi n'a que 9 ans. Plus tard, c'est ici qu'il conçoit avec sa femme Anne d'Autriche le petit Louis, le futur roi soleil. Louis XIV est un grand amateur d'art. Il rénove le palais et installe sa collection. Lorsqu'il quitte le Louvre pour s'installer à Versailles, tout naturellement, les artistes qu'il logeait, puis l'Académie de peinture, restent sur place. Le palais devient une immense résidence d'artistes gratuite et très à la mode.
Aujourd'hui, on appellerait ça un squat artistique.
Au milieu du XVIIIe siècle, les collections royales, jusqu'alors réservées à l'élite, sont présentées au public. Le siècle des Lumières et de l'encyclopédie voit la rénovation du Louvre et la Révolution en fait le muséum central des arts. Une grande nouveauté pour l'époque.
En 1803, le muséum français change de nom. Devinez, il s'appelle le Musée Napoléon.
L'empereur se débarrasse des artistes qui squattent toujours le Louvre.
Qu'on fasse partir ces bougres-là. Ils finiraient par brûler mes conquêtes et mon musée.
Il relance le projet d'un immense palais jusqu'aux Tuileries. Il n'y arrivera pas plus que ses prédécesseurs puisqu'il abdique en 1814. C'est son neveu, Napoléon III, qui concrétise enfin l'affaire. Pendant 5 ans, 3000 ouvriers travaillent sur le chantier. En 1857, le nouveau Louvre est inauguré. Il aura fallu plus de 300 ans pour réaliser ce grand dessin. Mais, fatalité du sort, à peine réalisé, le projet est réduit en cendres. Les flammes de la Commune de Paris dévastent les Tuileries en 1871. Heureusement, elles épargneront le Louvre.
Hey, sinon, un dernier truc. Revenez me voir le premier dimanche de chaque mois. Vous pourrez rentrer gratis. Si, c'est permis. Et c'est pour tout le monde. Allez, à la voyure.